Livre du Lévitique, Lévitique 21. Lévitique 21, versets 1 à 8. Lévitique 21, versets 1 à 8. Alors, si je vous fais pas la Bible, je vous avais compris, parce que je me suis répété je ne sais pas combien de fois, au point que les gens me disaient, mais je l'ai entendu. Si je ne vous fais pas la Bible, c'est parce que je suis un peu enrhumé, d'accord? Alors, je veux bien être fraternel, mais pas trop non plus. Je ne veux pas vous partager des microbes. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça va, on est au clair. Hein. Donc, Lévitique, chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux prêtres, aux fils d'Aaron. » Un prêtre ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, sa mère, son père, son fils, son frère, pour sa sœur encore vierge, qui lui est proche puisqu'elle n'est pas mariée, il peut aussi se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Les prêtres ne se feront pas de tonsure sur la tête. Ils ne raseront pas les coins de leur barbe et ne feront pas d'incision sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu. Ils ne déshonoreront pas son nom, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices passés par le feu, la nourriture de leur Dieu. Ils seront donc saints. Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous considère comme saint. Verset 10 jusqu'au verset 15. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction, qui a été établi dans ses fonctions, est habillé de vêtements sacrés, ne déférera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun mort, il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire, ni ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il épousera une femme vierge, il n'épousera ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il épousera une femme vierge et qui soit membre de son peuple. Ainsi, il ne déshonorera pas sa descendance parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le considère comme saint. Amen. Un passage pour lequel on n'a pas l'habitude de voir ensemble, mais en fait, ce passage nous décrit ici, eh bien, les croyants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la sacrificature de tous les croyants est magnifiquement et clairement éclairée, enseignée donc à travers les fils du souverain sacrificateur d'Israël. Parce que les chrétiens sont nés de Dieu, ils ont le privilège de fils et la liberté d'accéder à sa présence comme sacrificateur. Et cela, mes frères et sœurs, doit nous interpeller. Dieu a des exigences. Des exigences qui peuvent nous sembler difficiles parfois, mais Dieu a des exigences parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Non pas qu'on bombe le torse en disant « t'as vu un peu qui je suis ?» Non, sans moi, ceci, cela, non, rien à voir avec ça. Le jour que l'on rencontre le Seigneur Jésus, et qu'on a cette révélation dans notre cœur de Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, notre Dieu, notre Maître, celui qui peut effacer tous nos péchés, et que l'on comprend que Dieu s'est donné par amour pour chacun d'entre nous, et qu'il nous accepte après avoir demandé pardon pour nos péchés. Alors nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Vous êtes ses filles pour les dames, mesdemoiselles, et nous sommes ses fils pour les garçons et les jeunes hommes. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous avons ce privilège d'entrer dans la plénitude de Dieu, dans la présence de Dieu, parce que Christ est le tout accompli à la croix. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, l'apôtre Jean va donner une précision. Jean 1, verset 12, il dit quelque chose d'important. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous avons le droit, nous avons la possibilité de demander, d'ouvrir notre cœur à Dieu, de lui demander bien de nous conduire, de nous diriger, et j'espère que c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons. Mais aussi nous avons les privilèges de Dieu, d'avoir l'action de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, et de voir que nous sommes des privilégiés par rapport au reste de ce monde. Dans 1 Pierre 2:9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous avons des droits. Gloire à Dieu. Vous n'êtes peut-être pas tous convaincus, mais c'est la parole qui le dit. Mais nous avons aussi des devoirs. Des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Dans, nous verrons plus tard, Apocalypse, chapitre 1, verset 6, il est écrit « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes des prêtres, responsables, des hommes et des femmes de Dieu. Apocalypse 20, verset 6. Il est écrit, heureux et saints ceux qui ont la part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Hébreux 10, verset 19. Il est écrit, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Oui, mes frères et sœurs, nous avons ce privilège d'être dans la grande famille de Dieu. Cette famille de Dieu qui un jour a reçu Jésus comme son sauveur, comme étant son maître. L'Église de Jésus-Christ n'appartient pas à un homme. L'autre jour, j'ai pris en photo, enfin j'ai fait la capture d'écran d'un de ces éminents un des responsables d'une religion, d'une certaine religion sur notre terre, et qui parlait du pardon des péchés. Alors j'étais intéressé de voir quelle était leur pensée là-dessus. Alors, pour le pardon de leurs péchés, il faut juste faire des pèlerinages. Pas une seule fois on parle de Jésus. Vous entendez ? Pas une seule fois on parle de Jésus. Et encore moins de son sacrifice et du pardon de ses péchés. Par contre, on parle de sous, du pèlerinage. Et c'est tellement évident. Nous avons ce grand privilège, frères et sœurs, d'avoir eu nos regards, notre esprit ouvert aux choses de Dieu. Quelques-uns parmi nous, eh bien, vous n'êtes pas des novices. Avant, vous aviez votre religion. et on vous disait, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et on suivait, voilà, sans plus se préoccuper ou de savoir le pour qui, le pourquoi des choses. Mais le jour où Dieu a vu, parce que nous avons été prédestinés, que Dieu a vu, que nous étions de ceux et de celles qui étaient à la recherche, nous étions à la tâton, on tâtonnait ici et là, Dieu a permis que nous puissions rencontrer des frères et des sœurs qui eux-mêmes ont été éclairés pour nous parler de Christ. Et quel privilège, véritablement, nous avons, frères et sœurs. Les sacrificateurs ne devaient pas se distinguer par des marques physiques. Ici, lorsque nous avons lu ce passage, il est question de ne pas se raser la barbe ou les cheveux. Pardon. Les prêtres, verset 5, ne se feront pas de tonsure, sur la tête, c'est l'inverse. Ils ne se raseront pas les coins de leur barbe et ne feront pas d'incision sur leur corps. Et c'est très intéressant, en fait. Pourquoi on lit ces choses? Nous, ça peut nous dépasser parce que... voilà. Mais en fait, il fallait que le peuple de Dieu soit en décalage par rapport au rite païen. Il est écrit un jour que, dans certaines coutumes païennes, on laissait les cheveux devant les tempes. Et le jour où ces garçons, c'était pour les garçons, et il était interdit de les couper, ils pendaient comme ça, là, sur les tempes, devant les oreilles. Et à un moment donné, il y avait un signe initiatique qui était idolâtre, et aussi qui était immoral, où on venait couper lorsqu'ils passaient à l'âge adulte. On leur montrait ce qu'il fallait faire quand on était un homme. Et le peuple de Dieu a... Dieu peut permettre certaines choses, laissera faire certaines choses dans certaines nations, mais quant à nous, Dieu a ses exigences. Parce que nous ne pouvons plus faire comme dans le monde. Dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 28, il est écrit « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. » Alors j'aimerais un peu vous parler des tatouages. C'est écrit « Vous ne vous ferez pas de tatouage pour les morts. » En fait, il y a bien des années, ça fait déjà bien des années que les tatouages sont en pignon sur rue maintenant. Avant, on voyait des prisonniers qui avaient des tatouages, qui sortaient de prison ou qui avaient tout un symbole, une signification. Les marins, ou alors pour maman, pour papa, non pas pour papa, pour maman. Mais la mode a fait que des gens se sont fait tatouer. Mais vous savez que parfois, il y a des tatouages, et entre autres, les tatouages des gens des îles ont une signification. Alors, c'est vrai que ça peut faire joli comme ça, ça fait beau, tout ça. Mais prenons garde. La Bible, elle est claire. Alors, bien sûr, c'est pour les morts. C'est écrit. Ni les incisions, ni les tatouages. Mais au-delà de ça, les gens font comme ils veulent. Mais sachez et comprenez que parfois, il y a tout un symbolisme derrière ces tatouages. Et on est marqué. Parfois même, il y a des lettres du style asiatique. Je ne sais pas si vous maîtrisez le mandarin ou des choses comme ça, mais imaginez qu'on vous écrive comme, des choses du style une malédiction. Alors, vous trouvez que ça fait joli sur l'avant-bras, tout ça? Peut-être. Mais soyez prudents. Parce que c'est une mode. Mais quant au peuple de Dieu, Dieu le dit. Dans le verset, je l'ai lu tout à l'heure, verset 28. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs, qu'il y a des choses, en effet, qui se font dans ce monde, qui sont Voilà, les gens le font pour le faire. Parce que, bon, même pour certains, c'est peut-être aussi un symbole pour eux, bien sûr. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des droits de nous présenter devant Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Si vous êtes né dans l'église chrétienne évangélique, par exemple, où on prêche l'évangile, vous ne pourrez pas vous rendre compte de ce que je vais vous dire. Vous ne pourrez pas percevoir. Mais quand vous étiez dans une autre religion et qu'il vous fallait passer par un intermédiaire pour vous adresser à Dieu, ça prend toute... je veux dire, on comprend mieux ce que je vais dire. Aujourd'hui, nous avons ce privilège. C'est-à-dire que vous pouvez parler à Dieu dans votre chambre, dans le couloir de votre maison, dehors, n'importe où vous pouvez parler à Dieu. Vous n'avez aucun intermédiaire. Et je ne suis pas convaincu que l'Église de Jésus-Christ, nous prenions conscience réellement que nous nous adressons à ce Dieu qui a créé le ciel, la terre. Souvent, je le dis, mais est-ce que nous en prenons conscience et que nous avons ce privilège, mais immense, et le mot immense est tellement faible, de s'adresser à celui qui a dit, et ce qu'il a dit, ça s'est créé. Le monde sur lequel, la terre sur laquelle nous marchons en 7 jours, en 6 jours, elle a été créée, la végétation, toutes ces choses. Et, enfin, c'est le Dieu tout-puissant, ce n'est pas le Dieu puissant que nous connaissons, c'est le Dieu tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant, qui peut-être, moi, je ne m'intéressais pas à lui, peut-être même je ricanais, je rigolais, je me moquais, ou peut-être j'étais dans un profond mépris à l'égard de Dieu, peut-être. Ou peut-être tout simplement, je l'ignorais parce que je n'avais pas besoin de lui. Un jour est venu toquer à la porte de mon cœur. Parce que Dieu nous a prédestinés. Je ne sais pas si nous réalisons, frères et sœurs, le privilège immense. Et Dieu, lorsqu'on lit ces choses, pas de tatouage, pas d'incision, pas ceci, pas cela, on peut dire, oh là, on est esclave, on peut... Mais en fait, c'était des rites païens. Et en fait, dans ces ordres que Dieu donne, ce n'est pas des recommandations, ce sont des ordres, c'est pour nous protéger. Nous ne sommes plus parmi les païens de ce monde. C'est pour ça qu'il y a des choses, c'est pas ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est pas ça. C'est, voilà. Je choisis de ne plus le faire parce que j'ai compris que j'appartiens à mon Sauveur. Si nous ne comprenons pas que Dieu ne nous dit pas, fais pas ci, fais pas ça, j'ai pas le droit, frère, j'ai pas le droit de boire plus de 2 verres d'alcool. Mais pourquoi ? Parce que je suis chrétien. Mais le jour où vous serez faible, vous chuterez. Ah non, j'ai pas le droit de fumer. Bah avant tu fumais, ah ouais, mais maintenant je suis chrétien, j'ai plus le droit. Je vous assure, si vous raisonnez comme ça, c'est une question de vocabulaire, mais enfin, c'est bien plus qu'une question de vocabulaire, c'est une question de prise de conscience. J'ai choisi de ne plus fumer. Voilà. En fait, c'est un état de cœur. C'est, Seigneur, je ne veux plus faire ces choses parce que je réalise que je t'appartiens. Si nous comprenons, frères et sœurs, que nous appartenons à Dieu et que Dieu nous appartient parce qu'il habite en nous, alors, notre vie changera. Il y a peut-être parfois certaines choses que nous négligeons, tout en étant conscients que nous négligeons certaines choses. Tant pis, je reviens dessus. J'ai dit dimanche en 15, je crois. Il y a 15 jours, je crois. Et j'en ai reparlé jeudi, là. Mais ces histoires d'anneaux sur l'arche, vous savez ces détails dont j'ai parlé ? Des détails qui, à nos yeux, sont des détails, mais ils ne le sont pas pour Dieu. Dieu sait pourquoi il veut. Il nous dit, ne faites pas comme ça. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire d'une manière tout à fait ordinaire, mais Dieu sait que ça va être un piège pour notre vie. C'est pour ça, lorsque je dis, Jésus, je te donne mon cœur, il faut prendre conscience que lorsque je prie Dieu, ne priez pas Dieu en disant, Seigneur, je te donne ma vie, alléluia, parce que le chant est agréable. Seigneur, je te donne ma vie, alléluia, gloire à Dieu, je te donne toute ma vie. Mais on parle à Dieu. Moi, je suis embêté parfois, je vais vous dire. Avec moi-même. Parce que lorsque je prie, lorsque je dis quelque chose à Dieu, je m'engage avec Dieu, je veux en fait m'entendre dire, alors je le dis, mais ce que je dis, je veux que ça y prenne racine dans mon cœur. C'est-à-dire que si je dis, alors bien sûr, vous en doutez, Seigneur, je te donne mon cœur, je ne veux pas simplement le dire. Je prends conscience. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai donné mon cœur au Seigneur, vous avez compris, hein, j'espère. Mais je veux prendre conscience que ce que je suis en train de dire à Dieu, en fait, ce n'est que l'écho de ce que je pense dans mon cœur. Mon engagement pour Dieu, si je dis « Seigneur, ben voilà, j'accepte, Seigneur, de porter ma croix jusqu'à ma mort. » Je ne veux pas que ça soit simplement une belle prière. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien si c'est juste que des mots qui volent comme ça. Comprenons, frères et sœurs, que notre vie, Dieu s'est donné lui-même. Mourant la croix, eh bien, mourir, oui, mais avant, l'humiliation, l'incompréhension, on l'a chanté tout à l'heure, l'abandon, abandonné des uns des autres. C'est terrible quand on est abandonné. Quand on a aimé et qu'on ne se sent pas oublié, quoique des fois, ça fait du mal, mais de se sentir, pas de se sentir, mais d'être abandonné volontairement. Dieu connaît ces choses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à rentrer dans sa présence. Je ne fais pas de pub. Ne venez pas comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Ça, c'est que de la pub. C'est que de la com. Mais avec Dieu, c'est vrai. C'est vrai avec Dieu. Excusez de vous le dire ainsi, je suis très familier. Vous êtes tordu, vous êtes devenu tordu. Un chrétien depuis de longues années, et vous savez que vous êtes tordu. Ne le prenez pas dans le mauvais sens, mais tordu dans votre marche avec Dieu, vous savez que vous n'y êtes plus. Mais venez, tordu que vous êtes. Dieu va vous redresser. Pas vous dresser, vous redresser. Moi, il m'est arrivé parfois d'avoir des manquements. Vous savez, ce qui m'a toujours bien bouleversé, c'est de savoir que Dieu, malgré mon manquement, par son amour, Dieu ne m'a pas dit « Tu vas voir ce que tu vas apprendre maintenant, tu vas voir. » Pas comme ça. Par son amour, me restaurer, me renouveler. Je suis le porte-parole de beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire de tous. De dire « Jésus, tu m'as rétabli sans aucun mérite » et de sentir l'amour de Dieu nous reprendre. De nous reprendre, de nous rétablir, de nous restaurer. Et en fait, de dire, je suis avec toi, je ne t'ai jamais laissé. Le regard de Dieu selon la parole, le psalmiste David l'avait bien compris. Dans le psaume 139, verset 14, David va dire, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Et je le reconnais bien. Lorsque Dieu nous rentrons dans la présence de Dieu, Dieu fait de nous de belles personnes. Pas parce que nous sommes beaux, surtout les dames, elles ont toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Oh là là, j'ai une ride, oh, j'ai ceci, j'ai cela. Les hommes, bon, ça va un peu, voilà, hein. Mais les dames, même si elles sont belles, elles ont toujours quelque chose qui... Voilà. Hein, bon. Hier, j'ai dit à ma femme, comment je lui dis ? J'ai dit, oh, t'as bientôt 50 ans, mais alors, t'es toujours belle. Hein. Elle me dit, oh, mais c'est parce que tu m'aimes que tu dis ça. Je dis, non ! Non, bon, ça, j'ai trop parlé, pardon, j'aurais pas dû le dire. Bon, enfin, voilà. Et quand on rentre dans la présence de Dieu... Même si on a eu des manquements, des loupés, Dieu ne nous dit pas, c'est pas grave, continue comme ça. Et surtout, ne vous cherchez pas des excuses en disant, je suis qu'un homme. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. Vous pourrez faire du cinéma avec les hommes, avec l'être humain, mais pas avec Dieu. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on peut venir, on se sent misérable. Et on sort de la présence de Dieu, on se sent beau. Parce que nous sommes justifiés, pardonnés. Lavé, restauré, rétabli. Et nous pouvons dire au Seigneur, sans aucune compte, sans frein, on dit au Seigneur, bien Seigneur, je te prie pour un tel, pour un tel. Et on sait que notre prière monte au ciel. Pas parce que nous le méritons, mais parce que nous rentrons dans la présence de Dieu, parce que nous sommes des prêtres. Des prêtres. avec la légitimité de rentrer. Parce qu'un jour, Jésus a payé pour moi, a payé pour toi. Dans l'Exode, au chapitre 2, verset 2, regardez comme on peut être beau. Vous allez dire, le pasteur, il se trouve beau. Non, ça n'a rien à voir, vous avez compris, j'espère. On est beau dans le Seigneur. Maintenant, si vous vous trouvez beau, tant mieux pour vous. Du moment que ça ne vous monte pas la tête et que vous ne fassiez pas le plus beau que moi, tu meurs. Le Adon Malchon, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, mais c'était de l'humour qu'il faisait. 2:2, Exode 2:2. Il est écrit, « Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » C'est la maman de Moïse. Bon, vous allez me dire, quelle est la maman qui ne trouve pas son enfant beau? Même moi, alors, le voisin, il a donné, enfin pas lui, sa chérie, a donné naissance à un bébé, ben, ils sont beaux. Voilà. Je vous avais raconté l'histoire d'un pasteur qui était parti voir sa femme qui avait donné naissance à leur garçon. Et lorsqu'il arrive dans la chambre de la maternité, il regarde ce bébé. Et il ne le trouvait pas beau. Parce qu'il avait des petites peaux. Voilà. Et puis, bon, peut-être qu'il venait de naître, donc il était un peu boursouflé. Enfin, bon, voilà. Et il ne le trouvait pas très beau. Il y a une brave chrétienne qui vient rendre visite à son épouse. Et elle regarde ce bébé et dit, « Oh, qui ressemble à son père ?» C'est une histoire vraie, C'est une histoire vraie. Peut-être que vous ne vous trouvez pas beau par rapport à un passé lointain ou proche. Rappelez-vous, frères et sœurs, que si vous passez par la croix, on ne joue pas avec Dieu. Mais si... dans la repentance réelle, sincère, vous dites au Seigneur, je te demande pardon, Jésus. Dieu pardonne. Et comme j'ai dit un jour quelqu'un, Dieu fait le choix d'oublier. C'est le choix de Dieu. Il a fait le choix de te choisir, mais acceptez que Christ prenne toute sa place dans votre cœur. Ne résistez pas à Dieu, parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Mais il ne peut pas aller dans votre sens si vous êtes en décalage avec ce qu'il vous demande. 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. 3, 19, toujours dans le même livre. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Que c'est beau de voir des jeunes dans la foi. Quand je parle de jeunes, ce n'est pas l'âge, c'est jeunes dans la foi. De les voir grandir. Il y a une beauté chez eux. Surtout quand ils vous font part eh bien, d'un certain passé qui était plus ou moins obscur, plus ou moins sale. Ici, par exemple, il y a 2 personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus sales que les autres, ce que je veux dire, parce que je veux dire obscur, sale. Donc ne le prenez pas dans ce sens. Les 2 frères, je tairai leur nom, mais ils vont vite se reconnaître. 2 frères qui étaient des SDF, jadis. Des hommes qui n'avaient pas d'espoir, pas d'espérance. Des hommes qui, un jour, eh bien, ils ont décroché de la société. Mais qui sont beaux lorsqu'on les regarde. Lorsqu'ils louent le Seigneur. Lorsqu'ils bénissent le Seigneur. Mais ils sont tout aussi responsables que nous aussi, faisant attention de ne laisser aucune parole tomber à terre. Parce que c'est ça qui nous rend beaux. De voir l'œuvre de Dieu se révéler dans notre cœur. 1 Samuel 16, verset 12. 1 Samuel 16, verset 12, il est écrit « Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Vous savez de qui il est question ? David. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de qui ? Vous n'êtes pas tous convaincus, alors vous ne connaissez pas ce passage. Alors vous allez vite l'apprendre. Toute écriture, dites-le après moi s'il vous plaît, toute écriture est inspirée de Dieu. Et ici, il est question de la beauté d'un jeune homme. Il est clair. Le Saint-Esprit a permis qu'il soit noté dans sa parole, écrit dans sa parole, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Voilà, c'était David. Oins-le. Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Et si ce matin, il pouvait y avoir un écho dans votre cœur en disant « Lève-toi parce que c'est toi que j'ai choisi, toi, 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 toi. » En fait, tous ceux qui un jour ont compris que Dieu les cherchait, se sont donnés à lui, vous avez compris que c'était « Lève-toi parce que c'est toi que j'ai appelé. » Et quant à tous les autres qui viennent, ils sont contents de venir, mais ils viennent parce que ça leur fait du bien, parce que voilà, ils sentent qu'il y a la présence de Dieu. Enfin, ça ne s'invente pas. Hein. C'est Dieu, il est là ou il n'est pas là. Hein. Vous pourrez mettre toutes les fumées, toutes les lupiottes que vous voulez, des drapeaux et tout ça, danser sur les strates, tout ça. Ce n'est pas ça qui fait venir Dieu. Hein. Mais la présence de Dieu. Vous qui vous sentez bien la présence de Dieu, comprenez que Dieu vous cherche. Pas qu'il vous cherche, mais il cherche votre cœur pour dire « Donne-moi ton cœur. » Capitulez avec Dieu, capitulez à son amour, mettez votre oreille sur sa poitrine, sentez son cœur battre pour vous. Dieu vous aime passionnément. Vous n'avez peut-être rien fait pour qu'il vous aime passionnément. C'est sûr, ce n'est pas parce qu'un jour vous avez fait monter une belle prière, voilà. Dieu vous a choisi. Pourquoi ? C'est son affaire. Mais c'est lui qui fait le choix. Quel privilège. Ne passez pas à côté. C'est le privilège que Dieu nous donne. Oui, ce David, Dieu l'a choisi. Il fut loin à partir de ce jour jusqu'en dans la suite de sa vie. Et nous savons que sa vie a bien été complexe. Complexe. Et pourtant, Dieu était avec lui. Et par la suite, très souvent, Dieu fera référence sur David. Tu n'as pas été entier comme a été David, mon serviteur. Et des choses comme cela. Daniel, chapitre 1, versets 3 à 4. Le roi donnait l'ordre à Ashpenaz, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués et perspicacité et de sagesse, instruits, intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature, la langue des Babyloniens, etc., etc. Ça ne nous intéresse plus. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans ? De jeunes garçons, bon, peut-être que vous êtes moins jeunes. J'en compte. Mais quoique, on est éternel, donc... Sans défaut corporel. Alors les dames vont dire, oui, ben ça, j'ai ça, j'ai une ride en plus. Bon, mais au-delà de ça. Beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence. Vous savez que nous sommes des êtres intelligents lorsque nous donnons notre cœur à Dieu. Dieu les appelle fous, ceux qui ne veulent pas venir à lui. D'instruction, nous sommes instruits par la parole de Dieu, capables de servir, etc., etc. Nous sommes l'image de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous sommes de ces êtres que Dieu a choisis pour pouvoir le servir. Et puis, il est question de ce pain au chapitre 21 du Lévitique, au verset 8, lorsqu'il est écrit « Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous considère comme saint. » Nous savons tous, je ne vais pas vous faire l'affront. Certainement qu'il était question ici des pains de proposition. Mais le pain nous parle, n'est-ce pas? Il nous parle de quoi? Alors, je ne voulais pas vous faire l'affront, mais enfin, si vous êtes deux à répondre, là... Le pain, il symbolise quoi? Bien sûr, il nous parle de Jésus. Je suis le pain de vie. Et nous sommes, mes frères et sœurs, nous-mêmes, porteurs de ce pain. Nous donnons à Dieu notre reconnaissance, notre louange, par le pain de vie. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce matin, lorsque nous avons fait monter notre louange, notre reconnaissance à l'égard de Dieu, c'est par Jésus. Nous avons fait monter notre reconnaissance et Dieu nous voit comme saints. Un jour, quelqu'un disait « Oh, mais moi, je ne suis pas un saint !» J'ai selon la parole, tu es saint. Parce que souvent, on dit « Oh, mais moi, je ne suis pas un saint !» Alors, pour, entre guillemets, se justifier en disant « Bah, ça m'arrive !» Non. Je suis saint, selon la parole. C'est pourquoi ça me donne des devoirs et une haute responsabilité. Devant la boulangère chez qui je vais chercher mon pain, le commerçant, le facteur, est-ce que devant le facteur, je me comporte comme un goujat parce qu'il m'apporte la dernière lettre du fisc? Et déjà, est-ce qu'il est pour quelque chose, le pauvre vieux? Il est pour rien. Tiens, est-ce que je me comporte comme un goujat devant le policier qui veut m'arrêter ou est-ce que je passe à troisième? Riez, ça devient une mode. Que le Seigneur nous garde, qu'un jour on me dise « Stéphane, tu ne veux pas aller au commissariat de police ?» Le frère, il te demande. Et encore moins le pasteur. Est-ce que nous avons, mes frères et sœurs, oui, Dieu nous voit comme étant des saints. Vous savez, j'aurais honte si mes enfants, demain, se comporter mal. J'aurais honte, parce qu'ils portent mon nom, et parce que c'est, pas parce qu'ils portent mon nom, parce que ce sont mes petits. Mais si c'est le fils du voisin, je serais désolé pour les parents. Mais au-delà d'avoir honte, si demain mes enfants se comportaient mal, ils resteraient mes enfants. Même si demain il fallait que j'aille au Beaumettes, pour aller visiter mes enfants, enfin, pas les trois en même temps, peut-être. J'irai les voir, mais ça sera toujours mes enfants. Avec une souffrance, une douleur. Nous sommes saints. Il est écrit aussi que l'huile était versée, au verset 10. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a versé l'huile d'onction. L'huile, nous savons, représente ici la personne du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons, j'insiste, nous ne pouvons plus nous comporter comme nous le faisions avant, auparavant. Si nous rendons mauvais témoignage, vers qui iront les gens de ce monde? Les gens de ce monde ont besoin de rencontrer des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Même entre nous, nous pouvons avoir des différends entre les uns et les autres. Parce que l'autre, il préfère le bleu, l'autre, il préfère le vert. La parole nous enseigne qu'il nous faut nous pardonner réciproquement les uns et les autres. Même la parole va en disant, « Bien, regarde ton frère supérieur à toi. » Mais comme mon frère a la même lecture que moi, il me voit supérieur à lui, donc on tombe dans le... On est égal. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à relever le niveau. Nous ne sommes plus n'importe qui Et par voie de conséquence, eh bien, nous avons cette discipline de vie. L'apôtre Paul disait « Je me traite durement ». Il traitait quoi durement ? Sa vie. Ce qu'il pensait, ce qu'il regardait, ce qu'il disait, ce qu'il écoutait, ce qu'il faisait. Il y a plus de facilité à se lâcher. Hein.
Oh ben moi, c'est mon caractère. Je suis comme ça. Content, t'es content, t'es pas content, c'est pareil.
Mais ça, c'est pas être chrétien. Hein. Ça, c'est pas être chrétien. On déshonore le nom de Dieu. Et puis surtout, ne soyez pas fiers d'avoir un caractère explosif. Hein. Faut pas en être fier. Au contraire, faut tirer sur le mort du cheval en disant « Oh, wow !» Moi, j'ai mon tempérament. Vous l'avez remarqué. Moi, blanc, c'est blanc. Noir, c'est noir. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est pas parce que je pense comme ça que... faut pas en être fier, hein. Parce que quand on est comme ça, forcément, des fois, on peut faire des... Je veux dire le mot, des boulettes. Hein. Et on en paie les conséquences. Donc il faut, Seigneur, c'est toi le premier dans ma vie. C'est toi qui dois conduire, diriger ma vie. Alors parfois, le Seigneur nous permet de passer par des moments qui sont un peu, parfois, compliqués, difficiles. Mais parce qu'il le sait pourquoi. Je termine. Il ne fait pas d'alliance profane. Il épousera une femme vierge. Il n'épousera pas ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il épousera une femme vierge qui soit membre de son peuple. Ça nous parle, eh bien, en fait, là, de profanation. Je dois faire attention quant à mes choix. Mes choix doivent être calqué sur ce que Dieu veut. Des gens pleurent aujourd'hui. Des gens sont dans la tristesse profonde en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Écoutez ce que Dieu vous dit. En fait, Dieu nous veut du bien. Ce qui pourrait être admissible chez les autres, Dieu, lui, ne veut pas nous le permettre parce que nous sommes ses enfants, parce que nous portons son nom et que Dieu nous voit comme étant des saints. Vous vous rappelez de Balaam, le prophète un peu bizarre, avec Balak ? Balak, il ne supportait plus Israël. Allez, viens voir. Je vous brûle les étapes. Hein. Tu vas me maudire le peuple que tu vois dans la vallée. Tu le maudis. Les Hébreux, quand on lit l'histoire, on voit que Moïse, à mon avis, s'est souvent mordu les doigts. Parce qu'il y avait des gens qui étaient insupportables. Ce n'était pas une personne, c'était des groupes. Certains étaient jaloux en disant « Oui, mais Dieu peut parler à travers nous, hein. Ça va bien maintenant, tu vas arrêter parce que tu dis que Dieu t'a appelé, ok, mais Dieu peut parler à travers nous. » Sa famille, Aaron et Myriam. Sans parler des autres. Enfin bon, peu importe. Donc les Hébreux, c'était des gens qui étaient aussi compliqués. Comme les chrétiens. Vous croyez pas ? Des fois qu'on est un peu compliqué. Et pourtant, lorsque Balaam va voir ce peuple dans la vallée, il ne pouvait en aucun cas maudire le peuple. Il ne voyait que le peuple de Dieu, le peuple saint, le peuple élu. Lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas les choses qui pourraient être... Il nous voit ses enfants, comme étant ses enfants, son peuple élu. C'est pour ça que nous devons avoir une règle de vie et accomplir sa volonté. Éphésiens 1, et ce sera la fin de la fin. Éphésiens 1, verset 4. En lui, je vais le lire lentement pour que vous puissiez nous puissions l'assimiler. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Oui, Dieu nous pardonne, Dieu nous restaure. Mais rappelons-nous que même si c'est le Dieu du pardon, il y a eu un prix, sa mort à la croix. C'est la raison pour laquelle il est important de régler ses affaires. Vous venez ici, c'est très bien. Mais vous avez des obligations aussi. D'accepter que Dieu devienne votre Seigneur, votre Sauveur, si les obligations, si vous voulez être sauvé. Un jour viendra, frères et sœurs, où, lorsque Jésus reviendra, si Jésus revient dans la nuit du samedi au dimanche, on ne sait pas, hein, à 10h devant la porte. Nous avons fait un sketch un jour. Il y avait le pasteur. Et puis d'autres gens qui étaient là. Ils étaient venus à l'église, mais il manquait plein de monde. Et en fait, l'histoire de cette petite pièce, c'était que Jésus était revenu. Même le pasteur, il était resté. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que ça y est, on a la carte diplomatique, hein, qui nous empêche de... Mes frères et sœurs, c'est important. Avec Dieu, c'est du sérieux. Marcher avec Dieu, c'est sérieux. Nous avons des droits, bien sûr, et des obligations, mais n'oublions pas que marcher avec Dieu, il nous faut marcher dans la sainteté, la pureté, la sanctification. Ça ne fera pas de nous des gens sans faille, sans faiblesse, sans manquement, mais ne les entretenons pas. Il ne faut surtout pas les entretenir, mais de dire, Seigneur, eh bien, rétablis-moi, restaure-moi. Vous savez, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme, lorsqu'on lit les Écritures... C'était très, 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 très léger. Hein. Il a fait des choses qui étaient pires que Saül. Hein. Mais parce que cet homme ne cherchait pas des excuses. Il disait pas c'est à cause d'un tel ou d'un tel. Lorsqu'il avait commis l'adultère avec Bathsheba, lorsque l'homme de Dieu vient le voir en disant « tu es cet homme-là », qu'a-t-il dit ? Il a dit « oui, bon, enfin, bon, je veux bien prendre mes responsabilités, mais Bathsheba, elle a bien accepté de venir. » Il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai péché. Alors que le Seigneur nous bénisse. Entrons simplement dans la présence de Dieu, parce que nous en avons l'autorisation, le privilège de dire, Seigneur, eh bien, je rentre, remplis-moi, je veux marcher avec toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va terminer par la prière. On va demander à Jean Co de terminer par la prière. Et cet après-midi, nous avons la réunion à 16h.